Regarde-moi ça! J'ai l'impression de faire la dégustation. Ouh!
Ça c'est de la vue!
Ah, c'est magnifique cet endroit!
C'est absolument dément.
Et le spot est juste incroyable.
Ça joue vraiment à quelques centimètres.
On va s'enfoncer un peu dans la forêt.
Bon, ok, bon, ok.
Tout le monde est absolument gentil.
C'est ça la vie. Numéro.
Bonjour internaute et bienvenue dans ce nouvel épisode de Je t'emmène en voyage. Et aujourd'hui je t'emmène en tour du monde, mais un tour du monde un peu particulier, dans une façon qu'on a envie de faire connaître un peu plus, parce que c'est ce dont le monde a besoin. C'est un voyage qui est plus responsable, qui est plus lent, qui est du slow travel. Je suis avec Valérie qui nous parle de son tour du monde, où justement elle a été plutôt faire de l'échange de maisons pour vraiment vivre le quotidien des gens à travers le monde. Et en plus derrière elle en a fait un livre, En avant pour un tour du monde. Valérie, comment ça va?
Ça va super bien, Alex. Je suis très, très contente de te parler aujourd'hui. Vraiment contente parce que quand on est rentré du tour du monde, on a été rapatrié du Chili après 6 semaines dans le désert d'Atacama. Et c'est toi que j'écoutais presque au lever du soleil sur le bord de la plage à Cabourg en Normandie. Et tu m'as permis de continuer le voyage. Donc, je te remercie mille fois.
Avec grand plaisir, surtout que... Pour une fois, c'est un des rares contenus où je parle pas tant que ça. Finalement, c'est dans mon podcast parce que ceux qui font le job, ceux qui t'emmènent en voyage, c'est tous ceux qui interviennent, des gens comme toi. Et je trouve ça génial, les gens qui écoutent le podcast et qui, après avoir vécu quelque chose d'assez insolite, d'assez particulier, qui les a touchés, ils ont envie de le partager sur ce podcast. Et c'est pour ça que tu es là. Et pour moi, c'est après la boucle est bouclée, comme on dit. Donc vraiment, je suis impatient. Et ces derniers épisodes, j'ai envie de... Tu sais, d'habitude, je commence par pourquoi, comment, le quoi. Là, j'aimerais que tu nous embarques direct. Et après, on ira voir un peu les détails techniques. Mais j'aimerais que tu nous embarques direct dans la première aventure. Où est-ce qu'elle était, la première maison où vous avez justement été vive, que vous avez échangé?
La première maison, elle était à Québec. On a décidé de partir au Québec en hiver. On y était allé en été l'année d'avant. On voyage depuis longtemps, mais ce tour du monde, c'était vraiment la première fois. Ouais. Et donc, on est arrivé à Montréal. Il faisait moins 35 degrés. C'est un peu froid, ça pique un peu. On avait décidé avant de partir de faire la liste de tout ce qui nous faisait peur ou qui nous gênait un petit peu. Et moi, je déteste le froid. J'ai grandi à la Martinique. Et
attends,
donc, dans ma...
Quoi?
En dehors
c'est...
de ma
attends,
zone
c'est
de
génial,
confort,
ce concept.
Il fallait qu'il y ait du froid.
Attends, c'est génial. T'es en train de me dire qu'avant de partir, vous avez dit en gros qu'est-ce qui est clairement en dehors de notre zone de confort et on va aller le chercher. Genre c'était votre target, c'est ça?
C'était une des choses dans la charte du Tour du Monde, c'était ça. On a chacun listé ce qui nous faisait un petit peu peur.
Il y avait quoi dedans? Vas-y, c'était quoi un petit peu à peu près, tu vois?
Donc moi, c'était le froid, très clairement.
Ouais.
Pour mon fils, donc, quand on est parti, il avait 14 ans, Nemo, c'était tout ce qui pique. Les moustiques, les sangsues, les méduses, les araignées. Donc, il voulait absolument pas aller en Australie parce qu'il avait vu plein de plein de vidéos. Et finalement, on est allé en Australie.
Les plus dangereuses du monde, tu m'étonnes.
Voilà. Et mon mari parle pas anglais, donc tout ce qui était langue étrangère moyen, mais il fallait bien l'affronter. Et tous les deux sont très vikings de tempérament, et moi, je suis plutôt très très méditerranéenne. Et donc, tout ce qui était soleil, il fallait pas. Donc, en fait, on a décidé quand même d'aller à l'inverse de tout. Et on a démarré par le Québec dans le grand froid. Et c'était génial.
C'est toi qui as montré l'exemple de sortir de ta zone de confort.
Oui, j'ai dit, je démarre direct, les gars, j'y vais, quoi.
Et alors, du coup, comment ça se passe, du coup, dans ces cas-là? Tu sais, quand tu échanges de maison, il y a des sites, déjà, j'imagine, qui sont des plateformes. C'est quoi les sites que toi, tu as utilisés?
Oui. Alors, il y a pas mal de plateformes d'échange.
Ouais.
L'échange, c'est quelque chose qu'on pratiquait déjà depuis longtemps, puisqu'on a donc on a 4 enfants.
Ouais.
Les plus grands sont vraiment grands. Hein. Ils ont... quand on est parti, ils avaient 25, 24, 22 et 14, voilà. Donc ça faisait un moment qu'on voyageait en échange parce que c'est une bonne façon d'être tranquille, posé quelque part, de rencontrer du monde, parce que souvent tu rencontres les familles en échange, et puis de ne pas dépenser une fortune et de visiter le monde d'une autre façon.
Mais
et
attends,
donc,
attends, je te coupe, mais tu rencontres les familles quand même? Parce que
oui, tu...
Ah ouais, vous croisez alors, un jour ou le jour du départ ou un truc comme ça?
Ouais, souvent tu les croises, donc tu les croises quand t'arrives, donc soit c'est quand ils viennent chez toi, soit quand tu vas chez eux.
Et
je vais te raconter tout ça. Et donc, on passe principalement par une plateforme qui s'appelle Love Home Swap.
Ok, Love Home Swap. Évidemment, le lien sera dans la description, ce sera plus facile pour tout le monde.
Il y en a d'autres. Il y en a une autre qui s'appelle Home Exchange, qui est très utilisée par les Français en France, mais pour l'étranger.
Ouais.
Et tout ce qui est pays anglo-saxon, Love Home Swap, c'est vraiment fantastique.
C'est la référence.
L'interface est chouette. Ouais.
Ok, ouais. Super.
Et donc, tu as 3 façons d'échanger. Soit tu as l'échange simultané. Donc, tu vas chez les gens pendant qu'ils sont chez toi, exactement au même moment.
Ouais.
Ensuite, tu as l'échange non simultané. Tu vas chez eux en février, ils viennent chez toi en avril.
Ah, ok, ouais.
Voilà, donc tu n'es pas obligé d'être aux mêmes dates. Et puis après, tu as l'échange contrepoint. Genre, tu vas chez des gens qui ne viennent pas chez toi, mais tu as emmagasiné des points de gens qui sont venus chez toi avant.
Ah, c'est pas mal ça aussi. C'est pas
mal. Et je te raconte un exemple. Quand on est arrivé à Buenos Aires, donc dans une famille très sympa, on a déjeuné avec eux, c'était vraiment cool. Eux ne venaient pas en France, donc on a payé chez eux avec des points. Et quand on est arrivé, ils nous ont préparé à déjeuner. Et ensuite, eux partaient au Brésil avec les points qu'on leur avait apportés.
Ah non, c'est d'accord, mais c'est génial. Tu changes de maison. Mais ouais, en fait, tu as plusieurs. Putain, ils ont été malins, les gars. Il y a plusieurs possibilités pour ne pas être que dans le carcan de ben ouais, lui veut venir, mais moi, je ne voudrais pas aller chez lui parce que sa maison, elle ne me plaît pas ou dans la localisation, elle ne me plaît pas. Et finalement, ça t'ouvre tout un panel de possibilités et de destinations qui est assez dingue. Ok, génial. Et typiquement, la négo. C'est combien de temps ? Faut s'y prendre combien de temps à l'avant ? Genre, c'est 6 mois, c'est 3 mois ? Parce que forcément, c'est une logistique. Enfin, tu laisses quand même. Il y a une confiance qui doit s'installer, je pense. Enfin...
Oui, oui. C'est à peu près 3 mois avant. Mmh. D'abord, il faut quand même le temps que tu vois, t'identifies un peu les endroits où tu veux aller. Parce que, comme tout le monde, quand tu fais un tour du monde, tu prévois ton itinéraire. La seule chose, c'est que là, tu vas un peu l'adapter par rapport aux maisons que tu as trouvées. Et quelquefois, la maison que tu as trouvée t'emmène à un endroit que tu n'avais pas prévu. Par exemple, on est allé à Puerto Natales au Chili.
Ouais.
On était au milieu de rien.
Oh là,
on n'avait pas forcément prévu d'être à Puerto Natales, mais la maison, elle nous appelait. Et il y avait une vue sur la mer devant, et c'était juste sublime. Et on a dit, OK, c'est là. Et Australie, pareil, on a eu une ferme bio dans le bush. Alors là, vraiment, au milieu des serpents, de tous les trucs, enfin, on s'était dit, alors que Nemo ne voulait pas du tout aller en Australie, mais finalement, la fille de cette dame venait en France faire ses études, donc elle a habité dans le studio de ma fille, et nous, on est allés dans cette maison dans le bush, et voilà.
Et c'est vrai que, vu comment c'est galère d'avoir un studio à Paris, ça vaut largement une ferme dans le bush en Australie. C'est vraiment super intéressant sur ce. Ok, très bien. Maintenant qu'on comprend et qu'on connaît justement, enfin, le système de comment on peut aussi s'y mettre si on a envie de commencer à voyager comme ça différemment, parce que c'est aussi ça qui est intéressant, c'est que tu vas pas pour une. D'ailleurs, c'est quoi les périodes? C'est 2 semaines? C'est 1 mois? C'est quoi à peu près?
Entre 15 jours et 6 semaines.
Ah ouais, mais c'est minimum à peu près 15 jours en général, c'est ça ?
Après, tu peux faire des échanges très courts. Tu peux faire des échanges pour un week-end. Ah, okay. Il y a souvent des gens qui changent, tu vois, que pour un week-end. Mais nous, dans le format, ce qu'on avait imaginé par rapport à la scolarité de Nemo qui faisait sa troisième et sa seconde à distance, c'était de dire qu'en fait, on suivait un peu le planning de la France. On s'était dit, on va faire 6 semaines. Tu sais, l'école en France, c'est 6 semaines d'école, 15 jours de vacances. 6 semaines d'école, 15 jours de vacances. Et donc, on s'était dit, on fait 6 semaines un peu posées quelque part où le matin, chacun travaille ou lit ou apprend des choses. Et l'après-midi, on est freestyle, on se promène, on découvre les environs. Et puis, pendant les 15 jours qui sont censés être les vacances, on est itinérant. Donc, pendant ces 6 semaines, on était posés en échange. Alors, parfois, c'était vraiment 6 semaines. Dans le bush en Australie, c'était vraiment 6 semaines. Ouais. Parfois, ça a été... il y a eu 15 jours à Montréal, 15 jours à Mont-Tremblant, 15 jours à Québec.
Oui, mais en fonction des dispos aussi, en fait, c'est ça, forcément. Voilà. Et tout le monde n'a pas un mois et demi directement à swapper, comme pour reprendre.
Exactement.
Ça.
Mais tu as des échanges aussi qui sont des échanges de maisons de résidences secondaires. Donc, tu peux choisir dans tes filtres les résidences secondaires.
Ah, ils sont trop bien, ces gens-là. Ah bah eux, ils se mettent trop bien. Ils accumulent des points tranquilles, sans rien faire, tout va bien. Putain, ça, c'est top. Et du coup... Justement, donc là, on sait comment ça marche, on avait l'itinéraire, mais qu'est-ce qui vous a fait choisir vraiment, tu vois, ce style de voyage-là ? Parce que vous auriez pu, c'était de se dire, ça nous permet de voyager aussi plus longtemps, parce que du coup, ben, une des grosses charges du budget dans un voyage, c'est clairement l'hébergement, surtout quand tu commences à être 3, 4 ou 5 en fonction des familles, parce que c'est souvent ça, hein, qui parfois empêche les familles de partir. Est-ce que c'était ça ? Comment vous êtes imbriqué là-dedans ? Parce que il y a le fait d'économiser, mais il faut aussi avoir la psychologie de se dire qu'on accueille des gens chez soi aussi. Il y a aussi celle-là. Donc, ce n'est pas que le budget. Il y a aussi je pense qu'il y a des valeurs derrière, non ?
Ouais. Il y a effectivement plein de raisons différentes. Honnêtement, quand on a commencé à travailler... Alors, on avait beaucoup échangé. Ça faisait 10 ans qu'on échangeait. Mais quand on était prêt pour le tour du monde, on n'avait plus de maison. On avait vendu notre maison 4 ans auparavant parce qu'on pensait aller habiter dans le sud. On était tous les deux patrons de notre petite entreprise et on s'était dit un jour on ira vivre ailleurs. Ce qu'on n'a pas fait finalement. Mais, donc on était en location et échanger en location, c'est compliqué. En revanche, il nous restait le studio de ma fille à Paris, mais enfin, c'est son studio, et on avait un bateau dans le sud. Donc on s'est dit, on va essayer de voir si l'échange contre le bateau fonctionne. Donc tu vois, c'est même pas contre une maison, c'est contre un bateau. Et on a commencé à regarder, et en même temps que j'avançais sur l'itinéraire, on s'était dit que de toute façon, on voulait rester longtemps dans les endroits, parce que nous, on aime bien prendre notre temps et qu'on n'avait pas envie de passer vite. Et c'était vraiment important pour nous de dire, j'ai super envie de vivre comme si j'étais québécois, comme si j'étais australien, comme si j'étais chilien. On avait envie d'être posé, d'avoir nos petites habitudes au café. On a fait les vacances qui vont vite, où tu pars 3 semaines et où tu es speed tout le temps. Et on avait envie de le faire autrement. Et donc, pour ça, tu n'as pas 12 choix. C'est soit un Airbnb, et ça coûte cher. Ouais. Puis tu es entassé dans des petits espaces.
C'est de plus en plus cher.
C'est de plus en plus cher. Donc l'échange de maison répondait à ça. Et puis, depuis que j'échange, je me suis toujours fait des amis dans le monde entier. C'est des gens que tu rencontres une fois, deux fois. Puis avant d'échanger, tu parles avec eux par mail. Effectivement, il y a quelqu'un qui va vivre chez toi pendant un laps de temps et tu vas vivre chez lui pendant un autre laps de temps. Donc tu as besoin d'avoir échangé avant.
Ouais, clairement.
Et tu te coules, c'est assez rigolo, c'est comme si tu lisais un roman ou c'est comme si tu allais au cinéma. Tu te coules dans la vie d'une autre personne.
Quand tu lis sa bio, c'est ça ? Quand tu lis un peu la description de son profil quand...
Mais c'est un peu ça. Et tu te dis, par exemple, tu vois, au Chili, Mariana, avec qui on a échangé, elle travaillait pour Patagonia.
Okay.
Et entre autres, elle travaillait en face de Torres del Paine.
Ah ouais ?
Et juste, je me suis dit, on va avoir plein de choses à se raconter.
C'est forcément.
Et donc.
Ouais, c'est génial. En fait, tu mets déjà un pied dans le voyage, en fait, quand tu commences à préparer ce genre d'itinéraire, tu vois.
Oui, oui. Et puis, alors après, il y a une autre chose dont je ne t'ai pas parlé, parce que c'est rarement arrivé, mais en Nouvelle-Calédonie, on a voulu échanger. Ouais. En fait, mon mari, qui fait de la formation aux techniques de vente, qui avait passé son cours en e-learning pendant le voyage, a eu l'opportunité d'aller faire une formation en présentiel en Nouvelle-Calédonie.
Okay.
On était au Japon, on s'est dit, youf, on y va.
C'est pas si loin.
C'est pas si loin, sauf que ça coûte super cher. Et donc, on a trouvé une famille avec qui échanger. Sauf qu'eux étaient dans la maison, c'était pas la période des vacances, et elle m'a dit, nous, on sera là. Mais c'était une famille qui avait beaucoup voyagé, ils avaient un fils de l'âge de notre fils, et on s'est dit, allez. Et ça a été hyper sympa parce qu'on est arrivé et c'était comme si on était chez des amis.
Trop bien.
Donc, c'est une façon de voyager qui est aussi directement dans le pays avec les habitants. Et sans avoir l'impression d'être le touriste qui va chercher. Ouais. On est toujours les touristes de toute façon.
Bien sûr.
Mais c'est vraiment un échange.
Maintenant qu'on a, je dirais, tous les détails techniques... Plonge-nous justement dans ce premier univers. Parce que en fait, j'ai envie d'arriver aussi au Chili et dans la ferme dans le bush en Australie. Parce que je crois qu'il y a eu d'autres pays sympas. Il y a aussi la Corée, il y a eu tout ça. Donc, vas-y, raconte-nous rapidement. Mets-nous un peu dans l'ambiance, un petit appetizer avec les différentes maisons au Québec pour qu'on puisse plonger sur la suivante très rapidement. Raconte-nous cette aventure.
Bah, le premier pays, donc, c'est le Québec en plein hiver. On atterrit, il fait nuit, il y a de la neige partout. Et on sort de l'aéroport et il fait vraiment hyper froid, quoi. Et là, pour le coup, tu as déjà ta doudoune de ski, mais tu gèles quand même. On prend le taxi, on rejoint notre maison qui se trouve dans Montréal. Et là, on arrive, on n'a pas les clés. Il faut qu'on aille chercher les clés chez la maman qui habite en dessous. Et ensuite, ce qu'on n'avait pas capté, c'est que notre appartement était à 2 étages. Tu sais, c'est des escaliers
en fer qui font le tour
des maisons en colimaçon. On est dans le quartier du Plateau. C'est joli comme tout. La maison est jolie comme tout. Il y a de la neige sur l'escalier. On est là avec nos valises parce qu'on est parti avec les tenues hyper chaudes, plus les devoirs de Nemo. Donc, on est parti avec les cahiers pour faire les devoirs et tout ça. Et on monte l'escalier en colimaçon. Il est 22 heures, il gèle, l'escalier est gelé, et malgré ça, tu sais, tu montes, tu respires, comme ça, bon, t'apprends. Ça brûle la gorge, et malgré ça, tu fais, oh, ça y est, c'est génial, c'est le début, quoi.
Putain, en fait, c'est tout de suite, tu te prends une soupape, en fait, de là, tu te secoues, tu te sens en vie, en fait. C'est ça qui est génial. C'est que là, tu dis, OK, ça ressemble pas à mon quotidien. Là, on est vraiment parti.
Oui, c'est ça.
Et comment
Et
ça se
quand
fait?
t'arrives, t'ouvres la porte. Et là, c'est chouette, c'est ça dans les échanges aussi. T'ouvres la porte. Et là, c'était la maison de Jean-Pierre. Il nous a laissé un petit mot sur la table de la cuisine, hyper gentil, une petite bouteille de vin. Bienvenue au Québec. Et là, ça y est, quoi, ça démarre.
Et qu'est-ce que tu as retenu justement de ce quotidien qui, je dirais, par rapport aux bouches australiennes, ce que tu nous as dit, ou même au Chili, reste quand même assez similaire. Il y a une culture francophone, il y a des choses qui se retrouvent. C'est quoi que tu retiens un peu de ce quotidien québécois hivernal?
J'ai pas eu froid, enfin c'est bête ce que je vais dire. J'ai eu très froid au début, mais finalement, je pensais vraiment que ça allait être horrible et pas du tout. Parce que comme tu sais qu'il va faire super froid, donc tu t'habilles hyper chaudement. En France, t'es toujours entre les deux.
Ouais, tu
Tu
sais pas.
dis, tu sais pas quoi. Tandis que
Maintenant, ça
là, de toute
change d'une
façon.
heure à l'autre, enfin, d'un jour à l'autre, c'est chiant. Il n'y a plus les vêtements d'été, les vêtements d'hiver, laisse tomber, ça change tous les 2 jours.
C'est ça. Là, t'es direct en affaire vraiment, vraiment très hiver. Donc t'as 3 couches. Le bonnet, les gants, les machins. Et je me suis rendu compte qu'en fait, c'était un froid très sec. Le ciel est bleu tout le temps. On a eu un ciel bleu magnifique tout le
Ah
temps.
ouais?
Donc, tu es en hiver avec un très beau ciel bleu. Les Québécois étaient adorables. Quand tu traverses dans la rue, la voiture, elle s'arrête déjà 5 mètres avant que tu sois sur le passage piéton. On a goûté la poutine. La poutine, c'est ces frites avec une espèce de sauce dessus, du
Tu te fais prendre
fromage
à peu près
fondu.
45 kilos en une bouchée, voilà, à peu près.
Ouais, mais comme il fait moins 35 quand tu sors, tu te dis que tu les perds. En fait, c'était un quotidien assez posé, quoi. Le matin, on travaillait. L'après-midi, on s'est promené dans les environs de Montréal. On est allé se promener dans tous les quartiers autour. Nemo avait découvert aussi, on s'est rendu compte aussi avec nos différents âges qu'on ne cherchait pas l'information de la même façon. C'est-à-dire que nous, on est plus âgés. Quand on part en voyage, on cherche l'information dans des guides, tu vois, ou même sur Internet. Mais moi, je cherche des choses qui sont écrites. Mon mari cherche des choses qui sont visuelles. Il cherche en tapant, en regardant des images. Et Nemo ne regarde que les YouTubeurs. Donc, on a fait des circuits de YouTubeurs. On a été faire le lancer de hache à un endroit. Voilà, tout. On a fait ces circuits-là. Et c'est un quotidien qu'on n'a pas l'habitude de vivre, tout simplement.
Et tu vois, c'est une question qu'on pourrait se poser, mais tu vois, au bout de 1 mois et demi dans une ville, sans avoir ton quotidien de travailler. Bon, même si ton fils devait le matin effectivement faire quand même ses études, est-ce qu'on ne s'embête pas? Parce que finalement, tous les après-midi, bon, une fois qu'on a fait le lancer de hache, qu'on a été prendre les cafés dans les 2-3 qu'il y avait aux alentours de Saint-Pas, est-ce qu'on n'arrive pas dans, bon, bah, qu'est-ce qu'on fait? Tu vois, comment tu occupes tes journées quand t'es pas dans une
Alors,
ferme où il faut aller désherber?
ouais, c'est une super bonne question. En fait, c'est comme si tu étais projeté à Paris, à Lyon, à Marseille pendant 15 jours et que tu te dis, oh, j'ai 15 jours, quoi.
Ah ouais, en fait, tu fais tout,
Donc,
tu ponces la ville, en fait.
tu penses à l'île, tu es dans une espèce de frénésie de découvrir et non seulement il y a pas mal d'activités, puis tu as toujours un musée de l'histoire à découvrir, toute l'histoire des Premières Nations. C'est là où tu t'aperçois aussi que pays après
Exactement.
pays, finalement, cette histoire-là des Premières Nations, elle s'est quand même répétée un peu partout entre les Québécois, les Maoris, etc. Mais
Malheureusement.
donc, ça passe finalement très vite. Et au Québec, la journée s'arrêtait à 17h. Donc à 17h, tu fais le goûter de la mort.
Pour bien te coller le ventre, c'est ça?
voilà, puis après, éventuellement, tu ressors ou pas. Mais c'est un laps de temps que tu vis de façon beaucoup plus intense. Parce que tu as que ce laps de temps.
C'est génial. Et alors, du coup, après le Québec, après le froid où ça se caille les miches, mais finalement, à force, la peau elle s'endurcit, vous êtes parti au Chili, c'est ça?
Alors, non, 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 non. Donc, on est resté 3 mois au Québec. Ensuite, on est revenu assez rapidement faire un petit tour en France, puisqu'on a nos 3 grands qui, donc, ne sont pas partis avec nous pendant le tour du monde, qui nous ont joints par petits bouts, mais qu'on avait décidé de retourner voir assez régulièrement. Donc, on a posé les valises, on a changé les affaires d'hiver contre les affaires d'été, et on est parti en Australie.
Ouais, du coup, tu es parti avec 3 fois moins de valises, du coup.
Ah, ouais, là, tu pars avec rien. Donc, Australie, Nouvelle-Zélande pendant 3 mois. Donc, là, la ferme dans le bush. Donc, d'abord, Sydney très rapidement. Où là on a dormi chez une histoire rigolote, on a dormi chez Tony, dont le grand-père avait fait la guerre. Et il est venu faire la guerre en France, il est venu combattre dans la Meuse et il est mort dans la Meuse. L'histoire est horrible en fait.
Ouais, c'est une sacrée anecdote qui a foutu une sale ambiance. Non, je rigole.
Mais en fait, ce qui était fou, c'est que, tu vois, parfois on me dit, oui, mais quand tu échanges, il faut forcément avoir une maison à Paris pour échanger. Ben non, Tony, tous les ans, il va dans la Meuse retrouver la trace de son grand-père.
Ah ouais, c'est
et je savais même pas que les Australiens avaient combattu comme ça. Et Tony, il avait deux garçons de l'âge de Nemo, donc il est allé au collège avec ses deux fils. Donc ça, c'était chouette.
Ah ouais.
Donc, oui, oui. Cool. Donc on a été un petit bout en Australie. Ensuite, on était à Melbourne 15 jours. Ouais. Donc là, cool, on était à Sainte Kilda, la vie au bord de l'eau, on a vu les pingouins. Tu sais, au coucher de soleil, tu vas voir les pingouins, le street art. On a découvert la Great Ocean Road, les 12 apôtres. On a essayé de jongler avec les Chinois qui étaient tous là, de se lever tôt le matin pour en voir un petit bout. Et puis ensuite, on s'est installé dans le bush.
Ah, vas-y, décris-moi. Alors, on arrive. Parce que là, du coup, il faut louer une voiture quand même. Là, vous aviez une voiture.
Ouais, alors là, tu loues une voiture. Donc, en fait, on était à 25 km dans les terres, ouais. À 25 km de Byron Bay.
Okay.
Donc, Byron Bay est très connu, les surfeurs, tout
yes,
ça.
Complètement.
Mais sauf que dès que tu rentres dans les terres, à 25 km, il y a une toute petite ville qui s'appelle Mullumbimby. Et Mullumbimby, en Australie, c'est le territoire des hippies. C'est-à-dire qu'il y a 20 ou 30 ans, les gars, ils ont tous quitté la ville, ils sont allés s'installer à Mullumbimby. Mais nous, on n'avait pas trop capté ça, on savait pas trop en fait. On s'en est rendu compte la première fois qu'on a fait les courses et qu'au supermarché, tout le monde était pieds nus. C'était rigolo.
Ouais, mais en plus, ça c'est très australien en plus, il y en a quelques-uns. Mais
oui.
Si tout le monde était pieds nus, c'est que vraiment c'était une concentration de gens qui étaient un peu dans ce délire-là, effectivement.
Exactement. Et donc, on n'avait pas d'adresse, c'est-à-dire qu'on avait rendez-vous avec la personne dont la fille était en France chez nous.
Ouais.
On avait rendez-vous en face d'un petit dépanneur. Tu sais, c'est comme au Québec, tu as les espèces de petits cafés qui font un petit peu tout.
Ouais.
Et donc, elle nous avait donné rendez-vous là. Pareil, on est arrivé, genre, il devait être 21h ou 22h, on ne voyait rien. Et ensuite, on la suit. Elle était en voiture et nous, on avait loué notre voiture et on la suit. Et là, tu ne vois rien, il n'y a pas d'éclairage. Les routes ne sont pas du tout éclairées. Puis il commence à y avoir des dos d'âne, donc tu sens que ça s'enfonce un petit peu, t'es brinque-ballé. Puis on roule comme ça pendant, je sais pas, 4-5 km. Et là, on arrive dans cette ferme où tu vois rien. Et elle te dit, bon, il y a peut-être des petites bêtes, des petits bruits, mais faut pas avoir peur. En gros, c'est pas trop méchant. Et tu vois toujours rien, c'est quoi. Ça t'allume les trucs, mais... Puis il n'y a pas 12 000 éclairages comme dans des maisons quand tu échanges à Los Angeles, par exemple, où il y a 12 000 spots. Là, en plus, elle était très écolo, très bio, très machin, donc très peu d'éclairage. Donc, tu te couches, tu lèves quand même le drap pour voir si t'as pas une araignée dans ton lit.
Oh là là.
Et puis, tu t'endors en disant, putain, qu'est-ce qu'on est venu faire là? Qu'est-ce qu'on va faire là, pour le coup? Est-ce qu'on va
faire? Je suis sûr que c'est le genre de maison où il n'y a pas de musique de fond, genre il n'y a rien, ça fait genre clac. Le seul bruit, c'est le bruit de la petite lampe que tu vas allumer, le parquet qui grince. Et tu dis,
oui,
bonjour, pas une grosse ambiance ici ce soir, bon, on va s'installer.
Oui, c'est ça. T'essayes de capter du Wi-Fi, il n'y en a pas, ou quasiment pas, parce
qu'en
Australie, pour le Wi-Fi, c'est une tannée.
Ouais.
Et là, tu te dis, oh la vache, et là, c'est 6 semaines. Et là, tu te dis, ouf. Et voilà. Et là, le petit dit quoi?
Il dit, mais c'est non, mais qu'est-ce que je fais là?
En plus, il n'y a que des trucs qui piquent. Ah ouais, alors, il dit, s'il n'y a pas de Wi-Fi, ça ne va pas le faire du tout.
Ah ouais, il vous annonce ça comme ça. Fais-moi comment je fais pour prendre ma dose de dopamine là, sur les réseaux, c'est compliqué.
C'est ça, en fait, parler à ses potes. Et puis, alors, au Québec, il avait joué en ligne, c'était facile. Là, c'était compliqué. Et puis, au matin, la lumière est là, tu te lèves et juste ouvres la baie vitrée. Et là, tu t'aperçois que tu es au milieu d'une nature, mais une végétation extrêmement dense.
Ah,
et
dense.
Des kilomètres à la ronde, il n'y a rien.
J'aurais cru que
c'était le désert. Le bush, c'est pas forcément le sable. Ça peut être aussi simplement des tout petits arbustes, tu sais, très secs.
Yes.
Était au milieu de ça et il n'y a aucune maison à la ronde, il n'y a rien du tout. Nous, on est parisiens à la base, donc on a l'habitude de vivre avec du monde tout le temps autour.
Bien
et
sûr.
Là, tu dis, mais il n'y a rien. Tu n'oses même pas sortir pieds nus dans l'herbe parce que tu dis, il va y avoir des bestioles ou je ne sais pas quoi.
Clairement.
Et voilà. Et là, tu t'installes en disant, qu'est-ce qu'on va faire? Et alors, ce qui est rigolo, c'est qu'on s'est tout de suite réinstallé assez vite dans nos routines. Donc, tu rebranches tes ordis, tu refais ta petite matinée, puis tu vas faire les courses. Et puis là, tu arrives au supermarché. Puis là, c'est rigolo parce que les gens, ils ne sont pas habillés comme toi, parce que la bouffe, ce n'est pas la même, parce que tu as du temps. Et puis, tu vas au café, le gars, il te parle avec l'accent australien, mais bien, 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 bien profond. Et c'est rigolo parce que tu dis, on est là, quoi.
Et puis, j'ai rien compris.
Et on y est pour
mais
longtemps.
Mais j'ai mon café, ça va, ça passe.
Voilà. Et puis après, tu refais ta petite liste en te disant, OK, qu'est-ce qu'on va faire comme activité dans le coin? Et puis, il y a aussi les fois où juste, tu fais rien. Et le fait de rien faire, c'est aussi le moment où ben, tu écris, tu fais des photos, tu vis le temps autrement.
Mais justement, là on n'est pas à Québec, on n'est pas au plateau avec les stimulations ouais. sociales et the entertainment qui est un peu partout dans la ville, puisque tu es dans le bush. Ouais. Qu'est-ce ouais. que vous avez fait concrètement quand... Et est-ce que, ce qui est intéressant, ce qui m'intéresse, c'est de se dire, est-ce que ton petit bonhomme de 14 ans, il a réussi à vivre vraiment le voyage? Parce que bon, lui était en voyage, mais il avait un pied quotidien dans sa réalité française, de par l'école. Donc rien que ça, ça lui empêchait ouais. de déconnecter complètement. Est-ce qu'il a réussi à travers là, cette expérience dans le bush, à un moment à lâcher son téléphone, à vivre, tu sais, un peu plus ici et maintenant dans un truc qui est complètement à l'opposé de sa vie habituelle? Et si tu as réussi à faire ça, c'est à travers quelles activités, à travers quelles choses, tu vois?
Oui, c'est vraiment le moment où on s'est dit, de toute façon, il n'y a pas de réseau. Alors, il y a eu le premier soir où on a tous gueulé en disant, mais on peut rien, on peut pas poster les vidéos de e-learning, parce que l'idée, c'était quand même que mon mari continue à bosser.
Bien sûr.
On peut pas poster les devoirs de Nemo, il faudra qu'on aille à Byron Bay, c'était pas si loin que ça, mais il faut quand même se déplacer. Puis c'est là où on s'est rendu compte qu'il y avait un piano dans la maison et qu'on n'avait pas joué au piano depuis très longtemps, qu'il y avait, en fait, c'était une ferme. Donc, elle nous avait dit, vous pouvez ramasser tous les fruits que vous voulez. Donc, on est sorti d'abord avec les grosses bottes. Puis après, on s'est rendu compte que bah, c'est bon, quoi. En fait,
c'est bon, les serpents, c'est nos potes. On est dans du coin et tout, ouais, pas de problème.
Et puis on est allé au marché, comme les gens qui vivent dans le coin. On est allé au marché à Mullumbimby, donc le Farmer's Market, où tu arrives au marché. Tu as le gars qui joue de la guitare à l'entrée du marché. Tu as cinq petits stands avec le petit pain bio, Et les gars, c'est pas le marché comme en France, où au marché en France, tout le monde est très âgé, je trouve. Là, c'est vraiment les producteurs, ils ont entre 20 et 30 ans.
Ah ouais.
Petites salopettes mignonnes, les filles, elles sont toutes belles comme des cœurs, toutes pieds nus. C'est une ambiance vraiment à la cool. Au milieu du marché, il y a des tables. Tu prends ton café, tu t'assois et t'es pas installé depuis 2 secondes que les gens commencent à te parler. Et en fait, tu t'installes dans un espèce de truc très lent et très cool. Et après, tu vas voir la mer et juste ouais. t'y retournes et tu dis c'est beau, quoi.
Et justement, alors, est-ce que c'était la première fois de ta vie, parce que tu es partie justement, t'avais 54 si je dis pas de bêtises,
ouais.
sans vouloir divulguer ton âge, mais c'est important je trouve dans la psychologie de tout ça, c'est de se dire, toi qui as eu, enfin vous avez eu vos boîtes, vous étiez freelance ou entrepreneur, ça a été vraiment la première fois où il y avait un moment où tu dis, je lâche un peu, tu vois, enfin on ralentit le rythme de vie, ou est-ce que vous avez des breaks aussi plusieurs fois dans...
Alors, en fait, ce n'était pas la première fois. Okay. On était depuis 10 ans entrepreneurs et on avait pris l'habitude de partir 2 mois tous les
okay.
étés.
Ok. Vraiment, ça coupait vraiment?
Ça ne coupe jamais vraiment quand tu es entrepreneur.
Ben
je pense
ouais.
que tu sais ce que c'est.
Ben
tu
es oui.
toujours pendu à ton téléphone quand même. Mais, ou à ton écran. Mais tu apprends quand même à le gérer. Tu apprends à le gérer. Mais là, c'est la première fois qu'on était parti sur une si longue durée. Dans mon cas, il n'y avait plus de travail du tout. C'est-à-dire que
et
moi,
oui, c'est
je suis partie vraiment.
Tu sais, c'est ce moment où tu as
complètement coupé.
Ah merde, il n'y a rien qui m'attend. Personne n'attend une validation ou un truc. Je
n'ai ouais.
pas d'impératif.
Ouais.
Je m'autorise en fait à lâcher. Enfin, c'est à lâcher prise, ce fameux mot. Bon, un peu bateau, mais c'était genre. Tu es genre là. Ça fait 45 minutes que je suis au café. J'ai juste bu mon café. J'ai lu 3 pages et j'ai juste regardé les gens autour. Ouah, l'effet que ça a sur. Tu sais. Ça a eu quel effet sur toi, en fait, ce moment-là?
Mais c'est exactement ça. C'est qu'est-ce que ça fait du bien, quoi. Qu'est-ce que t'es tranquille. Et le moment où t'as passé le fait de « Ouah, mais je peux pas me connecter !» et que tu te remets au piano. J'avais pas joué au piano depuis des années. Et que tu te redis « Ah, tiens, le thème d'Amélie Poulain, j'aimais bien. Mmh. Allez, je vais me remettre dedans. » Puis après, on a fait le thème de Game of Thrones. Et puis, on l'a fait avec Nemo. Et puis, finalement, on a décidé, on faisait son cours de français. Ben, on a fait les pièces de théâtre ensemble, on les a mimées. Il m'a appris à jouer à Smash Bros.
Okay.
Ben, on avait ses vidéos. Des trucs qu'on n'a pas le temps de faire ensemble, jamais. On a fait plein de gâteaux. Enfin, tu es dans un rythme de vie qui est un rythme de vie qui, en fait, devrait être celui de tout le monde, finalement. Parce qu'on
ouais.
vit trop vite.
Mais tu vois, ce que je trouve très, très beau aussi dans ce que tu as vécu là et que tu nous racontes, c'est que déjà, moi, j'ai eu un pied dans cette vie d'avant Internet, dans cette vie où on avait le temps de s'ennuyer, tu vois. On avait, quand on était enfant, quand on allait en vacances, il n'y avait pas de téléphone. Donc, c'est justement, qu'est-ce qu'on fait, les man? Qu'est-ce qu'il y a avec tes cousins, avec tes copains? Bon, on fait quoi? Parce que de toute façon, faut trouver pour s'occuper. Et là, tu as ton imagination, tu te mets des challenges, tu te mets des défis, chose qui n'existe plus aujourd'hui. Il n'y a aucun instant pour ça. s'embêter et du coup être créatif parce que tu as tout qui te drive vers des choses qui existent déjà où ton attention va. Voilà, tu vas jouer à un jeu, tu vas faire ça, tu vas être sur tel réseau. Toi qui as été encore plus loin avant dans une autre réalité, tu vois, d'avant, que tu as connue, et de revenir dedans grâce à ce voyage-là, qu'est-ce que ça t'a. Est-ce qu'il y a des leçons, des choses, peut-être des regrets, je ne sais pas, des choses que. Qu'est-ce que ça t'a fait revivre? Tu vois, les leçons que tu en as ressenties, c'est quoi les grandes leçons, les grands ressentis que tu as eu de tout ça? Parce que, ok, tu t'es aperçu de te dire, putain, ok, j'ai refait des choses que je ne faisais plus, mais. Tu vois, c'est quoi la réalité? Est-ce que ça t'a fait reprendre du recul sur cette nouvelle réalité de... Tu sais, des fois, on s'y met dedans sans s'en rendre compte, quoi.
Quand j'étais petite. Et comme tu le dis, nous, on a connu cette réalité sans Internet, etc. Je passais mon temps à inventer des histoires, à enregistrer. J'avais toujours mon petit magnétophone. Ouais. Je faisais plein de photos, j'enregistrais plein de films. Puis après, tu le fais plus. D'abord parce que tu bosses, parce que tu es pris par autre chose, mais juste parce que, je sais pas, tu le fais plus. Mais là, quand tu as juste une chose à faire, c'est regarder les choses comme elles sont. Donc, j'ai fait énormément de photos. On en a fait beaucoup, tous d'ailleurs, ensemble. On a écrit des histoires, on a inventé des histoires, on a rejoué beaucoup ensemble. Tu vois, tu ressors des jeux, mais des jeux de papier. Ouais, t'imagines des choses. Et je vais aller plus loin parce que là, on est en Australie, mais je te fais un super bond en avant très rapide, puis je reviendrai après dessus. Quand on s'est retrouvés, alors à la fin du voyage, on était au Chili.
Oh, vas-y, dresse le tableau. Fais-moi une petite aquarelle, plonge-nous dedans.
Alors, la dernière vraiment partie... Enfin, c'était pas censé être la dernière partie du voyage.
Oui, mais on devait aller à San... bonjour. Voilà.
Le Covid a dit bonjour. Donc, on arrive à San Pedro de Atacama. Donc, déjà, dans San Pedro de Atacama, t'as atterri au milieu de rien. Donc, c'est le désert autour de toi. Il y a des grandes éoliennes quand tu prends la route. Et puis, la route, elle t'amène dans le petit village de San Pedro. Et là, c'est des tons qui sont ocres. C'est des montagnes, c'est des vallons, c'est... C'est ce qu'on appelle l'endroit de la lune, la vallée de la lune où il n'y a rien, il n'y a personne. Et donc nous on arrive là en se disant on y est pour 10 jours, on devait y être 10 jours. Bon, en fait on y est resté un mois et demi. Et là pareil, il n'y avait rien. Et là c'était plus uniquement avec Nemo, il y avait ma grande donc à 25 ans, ouais, qui aurait dû partir en Argentine, qui n'a pas pu, bloquer par le Covid, qui était avec nous. Et là je me suis aperçue que nous, ça faisait presque 15 mois qu'on vivait en mode ralenti. C'est-à-dire qu'on avait appris à trouver nos ressources en nous. On avait appris à s'ennuyer et à aimer s'ennuyer.
Ah, c'est bon ça, c'est très... Ouais, c'est super.
Et en voyant Calypso arriver,
et le décalage,
j'ai vu la différence. C'est-à-dire, mais qu'est-ce que je fais? Mais j'ai pas de wifi, mais je peux pas parler à mes copines, mais il y a personne dans le village, mais qu'est-ce que je vais faire, quoi? Et c'est le qu'est-ce que je vais faire où tu dis, ben... Réfléchis en toi, qu'est-ce que tu as toujours rêvé de faire? Qu'est-ce que tu as toujours eu envie de faire et tu n'as jamais eu le temps de faire?
Et que tu repousses et que tu dis, ouais, quand j'aurai le temps. Cette fameuse phrase de, ouais, un jour quand j'aurai le temps.
Exactement. Eh bien, il y a eu 3 jours compliqués. Et en fait, ce que je retiens de tout ça, quelque part, ta question, c'est qu'est-ce que je retiens? Arrêtons de surcharger les enfants de to-do list, de il faut faire ci, il faut faire ça. Il faut juste avoir le temps de rêver, s'ennuyer, laisser l'esprit vagabonder. Et même quand on veut être créatif, je pense que l'esprit qui vagabonde, c'est vachement bien.
C'est ultra.
On a inventé un jeu, une course au trésor internationale, sachant que ma deuxième fille était à Singapour. Et on a réussi à faire un jeu, une chasse au trésor internationale, tu vois, en inventant X 1000 devinettes. Juste parce que ton esprit, en fait, est extrêmement créatif quand tu le laisses aller.
Ouais,
mais on l'obscurcit de tout ça, quoi.
Ouais, c'est, tu sais, je crois que c'était Mathieu Ricard qui disait ça, ou dans un de ses écrits, il dit la paresse asiatique, c'est de ne rien faire, d'être là et de buller, etc., caractérisé. Et la paresse occidentale, c'est finalement de toujours s'occuper l'esprit, de vouloir faire des occupations en permanence, tu sais. Bon, moi, tu sais, quand on est paresseux, finalement, on fait des loisirs plutôt que travailler, parce que c'est là où ils faisaient le parallèle. Alors que les Asiates, eux, ils se mettent, ils font une sieste, etc. Et je pense que clairement, nous, alors même si ça a dû changer, je pense, côté asiatique, avec toutes les choses interconnectées aujourd'hui, mais c'est vraiment ça. On a cette tendance, surtout en Occident, à oh, j'ai du temps libre, faut que je le rentabilise avec des loisirs, des loisirs, des loisirs, des loisirs, des loisirs.
Ouais.
Et il y a un des plus beaux loisirs, franchement. Enfin, les meilleurs moments de l'enfance, c'est. Même, tu sais, après, c'est. Viens. En fait, tu es là, tu divagues dans tes jeux, tu vas trouver des jeux que tu vas créer avec des bouts de bois, des machins, des trucs. Et en fait, ton cerveau, il est en ébullition à ce moment-là. Il est ultra, c'est une bombe de créativité qui, à l'inverse, quand tu le mets devant un écran, il a juste à consommer, il est juste anesthésié par un truc, tu vois, qui est... Tu consommes, tu fais ce que l'écran te dicte de faire. Et comme tu dis, c'est compliqué, je pense, de... À part des conditions... En fait, je pense que c'est génial, c'est une super cure, tu sais, de pour soi, tu vois, une cure d'ennui. Je vais me faire une cure d'ennui dans le désert d'Atacama pour... Comme tu... et j'ai envie de revenir à ta fille Calypso. Au bout de ces 3 jours, qu'est-ce qui s'est passé pour elle?
Mais après, il y a eu comme un déclic. Après, elle s'est rendue compte que, en fait, tout le village s'est vidé. T'imagines San Pedro d'Atacama qui apparemment vit une ébullition permanente. Nous, on ne l'a pas connue. On a très envie d'y retourner pour voir ça. Mais il n'y avait plus personne dans le village, à part quelques locaux qui nous regardaient un peu bizarrement quand même, en se disant, mais qu'est-ce qu'ils font là, eux? On y était au mois de mars 2020, lors du premier confinement.
Ouais, le gros moment où tout le monde paniquait, se demandait
ce que c'était. Le gros moment où tout le monde paniquait. Et passé ce cap-là, on est allé dans la vallée de la Lune. Imagine que tu visites la vallée de la Lune sans personne. On a fait des séances de photos sur ce vieux bus qui est au milieu du truc sans personne. Et là, d'un coup, Calypso, aujourd'hui, quand tu lui poses la question, elle te dit, c'est ses meilleurs moments. Quasiment, ces moments où tu vis une espèce de solitude qui est à la fois, on a vachement rigolé parce que tu as plein de temps et tu es très dans la contemplation. Tu prends le temps de regarder aussi les choses, tu sais. Je trouve que même depuis qu'on est rentré, on essaye de faire attention. On est dans la forêt de Fontainebleau, on pourrait être plus cool. Mais très vite, tu te reprends dans un rythme où...
Bien sûr.
Putain, c'est incroyable, quoi.
C'est toujours c'est le problème du mouton. Hein. C'est t'envoies un courir, t'envoies 10 courir. Ouais, ils courent tous. Moi aussi, je cours, tu vois. Et tu sais pas pourquoi ils courent. C'est...
Alors, on a regardé les étoiles. Il se trouve qu'il y avait un Français qui est installé là-bas, qui a toute une batterie de gros télescopes.
Wow.
Donc, on a fait les étoiles. On n'a pas pu aller voir Alma, mais c'est pas grave. Et voilà. Donc, c'est un autre rythme. Et je pense que c'est super important d'en parler aussi de cette façon de voyager. D'abord parce que ce qui était chouette aussi dans tout ce tour du monde, c'est bien évidemment de voir que c'est super beau quand même. Le monde est super beau. On l'a vu, on le sait, mais
ouais,
on entend tellement de choses horribles tout le temps. Mais merde, c'est quand même très, très beau. Donc, faisons tout pour le protéger. Alors déjà, voyager, c'est pas terrible pour le climat, mais si on peut essayer de le faire un peu plus lentement.
Merci, bien sûr.
Même beaucoup plus lentement. C'est, je pense, la condition sine qua non pour continuer à voyager. Et en même temps, c'est juste un voyage sur soi qui est super chouette. Et comme tu le dis, plus ton cerveau est en ébullition, c'est comme quand tu fais des ateliers d'écriture et que tu commences à écrire et que tu t'arrêtes plus. Ben là, c'est pareil. Et tu as l'impression d'avoir des idées tout le temps, tout le temps, tout le temps.
C'est génial. Et tu sais, sur cet aspect de reconnexion à soi, en termes de famille, est-ce que justement, ça vous a... Alors, je vais te parler, poser la question bateau. Ça vous a rapproché? Est-ce que justement, au contraire, ça a fait ressortir des choses peut-être qui étaient enfouies parce que vie quotidienne, on n'a pas le temps de parler des vraies choses et finalement, il y a eu des clashs parce qu'il y a peut-être des choses, je ne sais pas, des choses passées qui sont remontées qu'il fallait régler? Ou est-ce que ça vous a resserré les liens? Qu'est-ce qui s'est passé en termes familial, si ce n'est pas trop indiscret, évidemment?
Non, bien sûr. C'est hyper important d'en parler de cet aspect familial. Il y a un groupe sur Facebook qui s'appelle Les Familles Autour du Monde qui est extraordinaire et qui nous a beaucoup aidé à préparer le voyage.
Ah, super.
Et il y avait deux éléments qui ressortaient tout le temps et qui m'avaient assez frappée, qui étaient de dire c'est les parents qui décident du tour du monde et puis en gros les enfants suivent. Et souvent ça se fait en camping-car et puis tu as les enfants derrière. Et dans notre cas, on est parti parce que, entre guillemets, Nemo nous a donné l'autorisation de partir. Et je m'explique, puis je vais revenir à ton point. Le voyage autour du monde, ça faisait hyper longtemps qu'on y pensait. Moi, j'ai vécu en Asie pendant longtemps, j'ai travaillé en Asie plus jeune, etc. Ça faisait longtemps qu'on y pensait, mais pareil, la vie avance, t'es pris dans ton truc. Puis c'est ton rêve que tu mets de côté, puis un jour tu te dis, bon, ça va être compliqué. Et puis il se trouve que Nemo était en troisième. Moi, la société, et là j'avais repris une activité salariée dans laquelle je travaillais, avait été vendue à un fonds d'investissement, ça devenait compliqué. Et pour me changer l'esprit, j'ai ressorti toutes mes boîtes dans lesquelles j'avais toutes ces destinations dans lesquelles j'avais envie d'aller, et je n'arrêtais pas d'en parler, mais sans m'en rendre compte en fait. Et un samedi matin, Nemo est venu me voir en me disant, écoute maman, je suis allée voir sur YouTube, c'est pas si compliqué l'école à distance et je veux surtout pas être un frein à ton voyage, à votre voyage. Et là,
le gamin mature, ok.
Bon, sa prof de maths l'emmerdait, il avait plus envie, mais...
Ok, franchement, à distance, c'est top, hein. Puis on peut aller en Australie, Californie, tout ça, enfin, bon, je dis ça,
voilà,
je dis rien.
Voilà. Et donc, Et donc, dès le départ, on a construit le tour du monde ensemble. Ça veut dire qu'on a évité un peu les drames familiaux que je lis parfois dans certains descriptifs où tu t'aperçois que les gamins sont un peu traînés par les familles ou dans le couple, tu en as un qui veut vraiment partir et l'autre, c'est pas trop son truc. En fait, on a passé énormément de temps à discuter entre nous.
Ah, super important ça.
C'est hyper important. Merci quand tu pars en famille. Ouais. C'est pas juste les parents, c'est quand même les gamins sortent de leur
environnement. C'est un truc d'équipe en fait. Et chaque membre de l'équipe doit être impliqué.
Oui, oui. Et du coup, l'itinéraire, c'est pas forcément qu'est-ce que tu veux voir ou qu'est-ce que tu veux voir comme pays. Nous, dans notre cas, on a aussi dit, est-ce qu'il y a des animaux que tu aurais envie de voir? Est-ce qu'il y a une nourriture que tu aurais envie de consommer? Nemo, il voulait absolument aller voir du K-pop en Corée. Il n'était pas question de ne pas aller à Tokyo. Mais moi, je n'avais pas envie de retourner à Tokyo. Je voulais aller dans les Alpes japonaises. On a fait des compromis pour que ce voyage soit vraiment le nôtre. Donc ça, c'est la première chose. Ce qui fait qu'en termes de famille, on a vraiment eu l'impression de le co-construire. Ce qui ne veut pas dire que quand tu arrives sur place, ça ne recommence pas à péter parce que... Il y a un moment où, ben, quand t'es la maman, c'est souvent toi qui organise un peu les voyages tout le temps.
Et malheureusement, il y a encore des schémas très matriarcales et patriarcales qui sont bien ancrés dans notre culture, effectivement.
Alors, c'est maman qui fait les réservations, c'est papa qui conduit. Mais là, comme on était en échange de maison, papa ne conduit pas, quoi. Donc, par moment, tu vois, on remettait un peu les pendules à l'heure. Et au début du tour du monde, on a pris l'habitude de se faire tous les dimanches un petit point. En disant, bon, les gars, qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui fonctionne pas.
Le point d'équipe.
Le point d'équipe. On était vraiment une équipe. On voulait vraiment que ça marche.
On sent les entrepreneurs, quand même.
Oui, un peu. Et c'est un moment, Nemo qui m'a dit, écoute, maman, tu peux pas être sur mon dos tout le temps pour les devoirs, quoi. Je t'ai dit que je le ferais le tour du monde. Je t'ai dit que je m'en occupe. Fais-moi confiance.
Super, ça.
Et là, j'ai dit, OK. J'ai compris. Et où c'est... On s'est chacun attribué des responsabilités aussi. Il y en avait un qui était responsable d'organiser les déplacements. Nemo était en charge de trouver les restos. Tu vois, on avait chacun des petites responsabilités qui faisaient que on s'est pas trop pris la tête.
Ouais,
vraiment.
Bon, après, ok. Il n'y avait pas eu de gros clash. Ok.
Il n'y a pas eu de gros clash. Et par contre, ce que ça a construit entre nous, c'est tu te dis putain, on l'a fait quoi. Tu vois, tu te dis quoi, c'est cool. Quoi,
on s'est pas déchiré, on se parle tous. On se parle tous encore, ça c'est quand même cool.
Tu sais, nous on est partis à l'âge, mon mari a 60 ans, à l'âge où tes potes te disent mais vous êtes barge, mais enfin vous laissez tout tomber, vous vendez vos meubles, mais qu'est-ce que vous allez faire en rentrant, on avait déjà un peu mal aux genoux, tu sais, on n'a plus 20 ans.
Bien sûr.
Tu fais des treks, il y a un moment où ça craque un peu d'un côté. et donc, tu es juste hyper fière de l'avoir fait ensemble.
Bien sûr.
Quand on était à Atacama et qu'on se disait on vit cette aventure extraordinaire, on avait l'impression d'être des aventuriers de l'extrême. On faisait rien en fait, on était juste posés dans le désert. Mais c'était quand même notre petite aventure. Donc je pense qu'on est très fiers d'avoir fait ça entre nous. On a vu tellement, le monde est tellement beau, les gens. Enfin, Nemo est revenu. Enfin, on est tous revenus avec.
C'est intéressant ça. Lui à 14 ans, c'est un âge assez. Particulier, t'as un pied dans l'enfance et un pied dans l'âge adulte qui commence à se dessiner. Même si j'ai l'impression qu'il était déjà assez mature vu les choses qu'il disait tu vois, avant le départ, mais qu'est-ce que t'as pu voir l'impact de ce voyage-là en fait ? Pas du voyage de on change tous les jours, on est en sac à dos ou en camping-car, mais de ce style de voyage de regarde, nous on va te faire goûter un quotidien différent. De cultures différentes, qu'est-ce que ça lui. Est-ce qu'il y a des choses que ça a changé en lui ou au contraire pas du tout? Ça a fait qu'on crée une personnalité déjà bien assise.
Ah, c'est rigolo, on en a parlé ce week-end et ce qu'il m'a répondu n'était pas du tout ce que je m'attendais à entendre.
Tu t'attendais à quoi?
Ben, je pense que nous, on attend, quand on explique, on dit je suis revenu plus patient ou oh tiens, je me rends compte que je suis capable de m'émerveiller encore tout le temps, ce qui est merveilleux quand tu voyages tout le temps, de pouvoir faire à chaque fois c'est trop beau, c'est trop beau.
Voilà. Clé du voyageur. Ouais.
Et Nemo, ce que Nemo m'a dit, c'est. Il me dit j'ai eu le temps. Quand on marchait, parfois c'était long, j'avais le temps. Mon esprit voyageait tout le temps, en fait. Et il s'est posé plein de questions. Je pense qu'à 14 ans, à l'adolescence, tu te poses des tonnes de questions. Qui suis-je? Où vais-je? Le sens de la vie? Le sens de l'existence? Face aux étoiles, à Atacama, il s'est fait ses petites théories. En fait, il a beaucoup
philosophé.
Il a beaucoup philosophé. Il s'est rendu compte aussi que le monde est grand, mais en même temps tout petit, parce que l'histoire, elle se reproduit quand même partout, pareil. encore une fois, je te disais, les Premières Nations, les Maoris, l'histoire de l'île de Pâques, les aborigènes, les Moai, tout ça, tu retrouves des semblants d'histoire et tu as l'impression, et tu te rends compte que tout est connecté. Ce qu'il m'a dit, c'est qu'il s'est rendu compte qu'on était tous connectés.
Tout seul, comme ça, il t'a sorti ça comme ça.
Ouais, et que tout ce qu'on fait est connecté, en fait. On est tous liés, on fait tous partie de la même histoire.
Ah ouais, c'est assez puissant, c'est très puissant. Et j'aimerais venir sur une petite parenthèse que je pense que ça peut être très inspirant et très motivant. Tu disais, là, on est fiers de l'avoir fait parce qu'on avait en gros 55 et 60 ans. Qu'est-ce que tu dirais, tu sais, à ces jeunes retraités, parce qu'il y a des gens qui, en fonction de leur métier ou parce qu'ils ont commencé à travailler très jeune, mon père a commencé à travailler à 14 ans, donc il était à la retraite à 57. Qu'est-ce que tu dirais à ces gens qui, tu sais, ont cette idée de voyage un peu dans un coin de la tête, mais ils disent, bah, c'est trop tard pour nous, tu vois. Est-ce que tu as un message à leur faire passer? Je ne sais pas lequel ce serait, tu vois, mais qu'est-ce que tu leur dirais à ces gens-là?
Clairement, c'est jamais trop tard. Ça m'a fait marrer parce que quand on était à El Calafate, par exemple, tu sais, on est allé voir les glaciers.
En Patagonie.
On était dans une auberge. Là, pour le coup, on était dans une auberge de jeunesse. L'auberge de jeunesse, c'était trop drôle. En fait, la moitié, c'était des retraités. Mais tu vois, des jeunes retraités, enfin, ou pas jeunes d'ailleurs, et avec leur bâton de marche, hyper motivés et tout ça. Et non, mais il n'y a vraiment pas d'âge. Je crois qu'on est une génération où on a la possibilité de vivre en bonne santé de plus en plus longtemps. Quand on était en Corée, on a beaucoup marché dans le parc national de Seoraksan, qui est absolument sublime. C'est une végétation merveilleuse. Et puis, on était en automne, les feuilles étaient toutes dorées. Et là, tu as beaucoup de petites mamitas coréennes. Elles sont toutes petites, elles doivent faire 1m50, toutes petites. Elles ont des tenues de marcheuses de dingue, elles doivent avoir 75, 80 ans. Tu les vois crapahuter sur les sentiers, tu te dis, vache, les nénettes. Il n'y a pas d'âge, en fait. Et c'est une erreur de se dire, je vais me poser dans une maison, mais te poser dans une maison, mais pourquoi faire? Le monde est tellement grand. Et surtout, ce que tu as appris, ce que tu emmagasines, tu pourras en faire profiter les autres. La façon dont les Québécois parlent de leurs aînés, c'est important de raconter l'histoire, de raconter ce que tu vis. Et alors peut-être que forcément on fait pas tous les treks. À Torres del Paine, on n'a pas fait le W parce qu'on se sentait pas de le faire. Et puis voilà. Mais on a fait du cheval, on a fait tout ce qui nous plaît. Mais c'est maintenant pour quelqu'un qui aime voyager et qui a envie, c'est maintenant. Et même pour quelqu'un qui n'aime pas.
Mais c'est ça que dis-moi. Tu sais, il y en a beaucoup des gens comme ça qui disent « c'est plus de mon âge, j'ai plus l'énergie, puis au final, ça va me servir à quoi ?» Puis en plus, c'est la peur, tu sais, de le danger. Oui. Je suis vieux, enfin, s'il m'arrive un truc, tu sais. Parce que là, avant, quand t'es jeune, t'as la peur de l'inconnu, des grands trucs un peu de ouf qui vont t'arriver. Mais je pense que quand t'es un peu plus senior, t'as la peur un petit pet... une petite blessure, un petit tracas, ça devient tout de suite une énorme affaire parce que ben, l'âge fait que ça amplifie.
Ouais, mais je crois qu'en fait, ce qu'il faut se dire, c'est que... en fait, je ne sais pas si je serais partie faire un tour du monde à 25 ans parce que tu te dis, j'ai ma vie devant moi, j'ai fait des études, il faut que je rentabilise entre guillemets mes études, donc il faut que je commence à travailler. Je ne sais pas, moi, je me suis collée des tonnes de responsabilités dès le début. Alors que quelque part, là, tu dis... Oh, ma life, elle est cool, je l'ai faite, mais j'ai juste envie de continuer. Et t'as moins de pression, finalement, moi, je trouve, quand t'es plus âgé, justement. T'as pas de pression.
Ouais. Ma life, je l'ai faite. C'est que du bonus, en fait.
Mais c'est que du bonheur, tes gamins. Ils ont grandi, ils vont bien, ils sont à l'école. Ouh, profite, quoi, profite. Et même si tu parles pas la langue, alors je vais te raconter un petit truc. Mon mari parle pas, et mon mari était beaucoup plus casanier. Moi, ma grand-mère a fait le tour du monde, j'ai grandi avec cette histoire.
Ta grand-mère, à l'époque, ça devait être vraiment incroyable. Déjà, un tour du monde, c'est très bizarre. Alors, une femme à l'époque des années 60, c'était un truc comme ça.
Elle est partie à 60 ans. Donc, elle était née en 1900, donc oui, c'était les années 60. Elle est partie en cargo, c'était l'époque où on voyageait en cargo. Et elle jouait à la belote, avec les marins. Elle me racontait l'histoire. Donc, j'ai grandi avec l'histoire de la grand-mère. Mon mari, moi, il était plus casanier. Il parle aucune langue étrangère. Quand je l'ai rencontré, c'était un peu il m'avait dit, il était toujours parti en vacances au même endroit. Et moi, je lui ai dit, mais non. Mais en fait, t'as pas besoin de parler la langue, puisque de toute façon, si tu pars en Corée, au Japon, de toute façon, dès que tu sors des grandes villes, et même quand t'es dans les grandes villes, les gars, ils parlent pas l'anglais, donc tu t'en fous. De toute façon, tu comprends rien.
C'est tellement ça.
Que tu comprennes rien en anglais, ou que tu comprennes rien en coréen, en norvégien, en danois, en ce que tu veux, de toute façon, tu comprends rien et t'apprends à parler avec les mains et t'apprends à écouter. Et du coup, Dom, donc mon mari, il était tout, tout content. Il avait appris deux, trois mots. Enfin, de toute façon, il se débrouille quand même. Mais tu baragouines, quoi. Et t'en reviens tellement fier. Et en plus, ce que je pourrais dire aux personnes un peu plus âgées, c'est plus tu fais fonctionner tes neurones, et plus elles se reconnectent entre elles, et plus tu crées des réseaux. Tu veux rester jeune, voyage, continue à apprendre, continue à ouvrir les yeux, continue à faire fonctionner tes neurones. C'est hyper important. Et t'es pas obligé d'aller loin. Juste, tu peux partir déjà en Italie, en Espagne, mais juste essaye de le faire sans passer par un voyage organisé parce que tu n'en as pas besoin. Tu peux aussi découvrir les choses.
Je sais que ma mère écoute ce podcast et je lui fais un gros bisou parce qu'elle adore voyager. Et j'espère que ce passage-là, elle le fera écouter à mon père qui aime beaucoup moins voyager et qui se laisse traîner de temps en temps. Mais effectivement, y en a certains qui ont peut-être un peu peur de mourir. Ben, en fait, si tu as peur de mourir, comme tu dis, crée-toi des situations de stimulation émotionnel, neuronal, psychologique, parce que tu forces ton corps et ton cerveau à créer des chemins qui ne sont plus trop utilisés vu que tu n'as plus la même vie qu'avant, et en fait de l'entretenir ou encore d'en créer de nouveaux. Tu crées toujours des cellules, tu crées toujours des nouveaux chemins, et ça le voyage, vu que tu n'as pas trop le choix, c'est en permanence des nouveaux trucs que tu gères, ton cerveau il est en ébullition, et comme
exact.
Tu dis,
Et puis tu peux partir en échange. Tu sais, quand tu es plus âgé, en général, tu as une maison, tu as des meubles, tu as des machins. Donc, tu as un peu d'argent, tu as un peu de trucs quand même derrière toi. Ouais. Donc, ta maison, tu l'échanges. Tu vois, ton papa, si par exemple, il se sent un peu plus casanier, rien ne l'empêche d'aller se poser dans une maison à Montréal, à Lisbonne.
Déjà, pour qu'il y ait des gens qui aillent dans sa maison, à mon avis, ça, c'est un autre game aussi. Hein. Mais on va faire une petite inception. On va planter cette petite graine qui sait.
Voilà, tout doucement.
Tout doucement, tout doucement. J'aimerais que... Pardon, vas-y, continue.
Mais vas-y. Et puis aussi, quand tu es plus âgé, les souvenirs que tu te fais en partant plus tard, ils sont proches de toi. Moi, je passe ma vie à regarder mes photos d'Atacama, des Moai, de tout ce que tu veux. Et c'est juste un bonheur.
C'est génial.
Et là, on est en train de prévoir le prochain voyage.
Attends, avant de prévoir le prochain voyage, moi, j'aimerais que tu m'emmènes dans un pays dont on parle quasiment jamais, parce qu'il y a peu de gens qui y vont. C'est la Corée. Emmène-nous là-bas. Mais en plus, vous avez vécu. C'est comme... Parce qu'on nous parle souvent du Japon, qui est quand même assez médiatisé. Tant mieux, parce que c'est un pays vraiment incroyable. Mais la Corée, vous êtes allé où ? Comment ça se passe ? Comment les gens y sont ? C'est quoi leur quotidien ? Enfin, vas-y, dis-nous tout.
Alors, Corée, on est resté 2 mois.
Ouais ?
On a démarré par Séoul.
Ouais.
Séoul, on était en échange. C'était un échange un peu particulier. On était chez Noleg. Et Noleg, il n'avait pas compris que pendant l'échange, il devait quitter sa maison. Donc, il avait oublié de nous dire qu'il était dans la maison. Et en fait, il était là avec sa femme et son petit garçon. Bon, ils étaient adorables. Ils étaient adorables, sauf qu'on s'est retrouvés un petit peu confinés comme ça. Mais du coup, c'était marrant parce que justement, on a pas mal échangé. Séoul, c'est une ville qui est très marrante parce qu'elle est extrêmement étudiante. En fait, on ne s'attend pas à ça. Tu as des quartiers entiers de Séoul où il n'y a que des jeunes. Et qui sont... joyeux, ça rigole, il y a du monde dans les rues, ça danse partout. Il y a des quartiers de Séoul, tous ceux où tu vois les K-popers, où tu as la musique à fond. Et il y a une espèce de joie que tu n'as plus dans certaines villes en France quand tu vois des étudiants. Et puis, et même par rapport à Tokyo, je trouve que c'est plus festif encore Séoul. Et puis alors, ils sont très, très cafés. Ils sont très, alors, tu as 12 000 cafés à concept. Donc nous, notre grosse activité à Séoul l'après-midi, c'était de faire la série des cafés à concept.
Genre quoi?
Alors, tu as l'endroit où tu prends le café avec les chiens, l'endroit où tu prends le café avec les chats. Tu as aussi l'endroit où tout est dessiné, tout le café est organisé comme une bande dessinée. Donc tout est en 3D. Donc tu as l'impression d'être dans une bande dessinée.
Ah, c'est énorme.
Et puis ouais, le soir, il y a vraiment une énergie incroyable, incroyable. Et ça, c'était cool. Et puis à côté de ça, t'as les temples, puis là, t'as les petits vieux qui jouent au mahjong. Donc tu passes de ça, c'est sans arrêt, tu passes de la grande modernité au plus ancien, mais avec une espèce de joie de vivre qui est très sympa. Tu comprends rien, de toute façon, ça, tu comprends rien. On s'est retrouvés à faire une manifestation à Séoul. On voulait manifester pour le climat. Et on avait vu sur Facebook qu'il y avait le Climate Day.
Ouais.
Et donc, on décide de se rendre à la manifestation. Et en fait, on s'est trompé. En fait, donc on arrive à la manifestation et puis on voit.
C'était celle des agriculteurs, en fait. Ça n'avait rien à voir sur le prix
c'est
du lait.
C'est presque ça. En fait, il y avait des jeunes partout avec des panneaux. Et donc, ben, on se dit, donc Nemo, il s'assoit, les jeunes lui filent un panneau, il écrit un truc dessus, There is no planet B, et on commence à avancer avec no, There is no planet B là-dessus. Et puis à un moment, il y a une petite Coréenne qui vient me voir et qui me dit, mais vous savez où vous êtes là? Et je dis, ben, ouais, la manif pour le climat. Non, non, nous, on est la manif des instituteurs, la manif pour le climat, c'est dans une heure. Bon, bref, donc on l'a refait après.
T'as pas réussi à lire les panneaux en coréen, je suis étonnée.
Donc voilà, donc ça c'était Séoul avec la nourriture où pareil tu comprends rien, mais comme il y a des photos partout, tu sais, tu
ah, yes.
Fais plat.
Ah, c'est pratique ça.
Ça c'est bien pratique, le bulgogi, le kimchi, tous ces trucs un peu acides.
C'est bon ou pas la bouffe coréenne en vrai? Ah, il y a une hésitation, il y a une vraie hésitation. Ok, c'est pas un oui franc. Ouais. C'est...
Le kimchi c'est quand même du chou fermenté très fort. C'est spé. Après le Korean barbecue ça peut être très bon. Ouais, moyen.
Okay, pas...
Mon fils a adoré.
Okay.
Moi,
ah, d'accord.
Moyen.
Okay.
Moyen. Et ensuite, partant de Séoul, on est allé à Seoraksan. Donc, Seoraksan, on est resté pareil 15 jours. C'est un endroit où les gens passent en général 3 jours. Okay. C'est un parc national. C'est un parc national où tu es vraiment dans une grosse, grosse végétation avec des montagnes qui sont. Ça n'a pas grand-chose à voir avec nos montagnes dans la mesure où. Il y a beaucoup de pierres, donc c'est de la montagne grise, c'est très escarpé. Tu as des escaliers en pierre comme ça sur des montagnes très,
ah ouais.
très raides.
Ah ouais,
et à un endroit en particulier, c'est des échelles exactement qui sont quasiment dans la pierre. Et à un endroit, tu montais jusqu'à arriver dans une petite grotte où là, il y avait un petit moine coréen qui était assis là et qui te raconte sa life dans évidemment un truc que tu ne comprends toujours pas. Mais c'est pas grave, il te fait boire un petit coup de thé et t'as l'impression d'être arrivé quelque part de fantastique. Et là, quand tu baisses la tête, tu regardes en dessous de toi, d'abord il y a un vide de fou parce que t'es monté sur ces escaliers. Et là, ça surplombe des arbres avec des troncs marrons très foncés et des espèces de feuillages très denses, très verts. C'est très joli. Et tout du long, alors il y a zéro touriste étranger et toutes ces petites coréennes, donc les mamitas coréennes qui viennent en groupe avec des tenues extrêmement colorées. Donc tu les vois, elles ont des tenues, mais comme si elles marchaient professionnellement tout le temps.
Ah ouais, les trucs un petit peu 60s, aérobic, bien flashy, c'est ça?
Oui, exactement, c'est ça. Et là, on dormait dans une guest house qui était tenue par un vieux monsieur coréen qui parlait un tout petit peu anglais, qui nous portait le petit déjeuner devant et avec qui on a pas mal échangé. On est allé voir la zone de démarcation avec la Corée du Nord. Et c'est plus intéressant que de le voir de Séoul parce que tu as beaucoup moins de monde déjà. Et là, tu t'aperçois, enfin là, d'un coup, tu prends la teneur de ce que c'est qu'en fait, devant toi, tu as juste la plus merveilleuse plage du monde. Mais dessus, il y a 12 000 miradors qui sont posés. Et tu as tout cet espace de no man's land quoi, qui est posé là. Et puis, avec le musée qui raconte toutes les atrocités de ce qui s'est passé pendant la guerre. Et en fait, c'est ça aussi un voyage au long cours comme ça, avec un plus jeune aussi. C'est tout ce que tu apprends sur place de ce qui s'est vécu, mais que tu découvres là en le vivant. Enfin, en y passant, quoi. Et puis, on a rencontré... Alors, après, on n'est pas... Après, c'est Seoraksan, et que je conseille vraiment. Le parc est magnifique. Mais au-delà d'être magnifique, c'est que du coup, comme tu es posé là, dans cette petite ville où il n'y a pas grand monde, c'est pas la même vie qu'à Séoul. Donc là, il n'y a pas la K-pop, il n'y a pas les citadins.
Alors, pour cette petite parenthèse, la K-pop, si tu peux nous faire peut-être une meilleure description que moi, puisqu'effectivement, tu l'as vécu de l'intérieur, parce que je pense que c'est très, très peu connu en France. Qu'est-ce que c'est que la K-pop?
Bon, bah, c'est la Korean pop.
Ouais.
Donc, c'est de la musique.
Ouais.
Donc, c'est des groupes de jeunes. C'est principalement soit des groupes de jeunes garçons, soit des groupes de jeunes filles.
Ouais.
Qui commencent à chanter, danser. Ils sont réunis en groupe lorsqu'ils commencent à avoir 12, 13 ans. Et c'est sur. Alors, ils chantent en coréen. Ils chantent sur des rythmes qui sont très oui très pop
très techno
et juste il y a ce groupe de filles qui s'appelle les blagues, je ne sais plus quoi, je vais te retrouver le nom parce que je ne connais qu'elles, qui depuis font un carton partout. Et il y a un documentaire sur elle sur Netflix, je vais te retrouver le nom, ça va me revenir quand on parle.
Mais en gros, c'est ça, c'est vraiment, nous, ce qu'on a connu à l'époque, c'est, enfin moi, quand j'étais plus jeune, c'est des boys band ou des girls band, sauf que oui. Eux, bah nous, on, au bout d'un moment, on s'est foutu de leur gueule, on s'est dit, bon, c'est bon, c'est un peu tout pourri, sauf que eux, en ce moment, c'est le truc qui cartonne de malade, il n'y a ça que cartonne. Ça partout, en concert, à la télé, enfin, c'est la folie furieuse là-bas.
C'est la folie furieuse, ils sont en pub partout, c'est-à-dire que les boys bands ou les girls bands, lorsque tu vas dans les petites rues cosmétiques à Séoul, ils sont en pub de partout, ils font les pubs pour tout, pour le téléphone, pour les avions, pour les machins, pour les trucs, et c'est des stars colossales, Et en même temps, c'est des artistes phénoménaux, c'est-à-dire qu'ils répètent, ils chantent, ils dansent, ils font que ça, et ils sont super bons. Ouais. Elles ont chanté avec Lady Gaga dernièrement, les filles.
Pas le time. Et du coup, je t'ai coupé, mais du coup, t'es partie où après encore?
Alors, après Sir Roxane, on est parti à Jeju. Jeju, c'est l'île des honeymooners. Donc, t'as beaucoup les...
Tous ceux qui vont en lune de miel, ouais.
Tous ceux qui vont en lune de miel. Et les tenues en Corée sont ravissantes pour les jeunes femmes qui sont en lune de miel. Elles remettent la grande robe traditionnelle, qui est une robe très colorée. C'est du rose fuchsia, du jaune, du orange.
Comme un kimono un peu?
Alors, non, parce que le kimono, ça colle au corps, alors que là, ça colle en haut, et ensuite, c'est très évasé. T'as l'impression d'avoir des papillons.
D'accord.
Et quand tu les vois tout ensemble, c'est comme si c'était plein de papillons partout.
Génial.
Et surtout, à Jeju, il y a les Enyo. Les Enyo, ce sont ces femmes plongeuses. Alors, on en a entendu parler au Japon, mais en Corée, elles sont...
Les perles, au Japon.
C'est les perles, au Japon. En Corée, c'est le poisson, c'est les perles. Et c'est des communautés de femmes qui, pendant la guerre, ont vraiment fait vivre leur famille. Et donc, elles allaient pêcher à des profondeurs très, très profondes. Mmh. Elles sont capables de rester en apnée extrêmement longtemps. Il y a encore 40 ans, elles pêchaient, elles plongeaient en maillot de bain. Hein. Aujourd'hui, elles ont des combis, mais dans des eaux très froides. Elles étaient 3-4 000 à l'époque. Aujourd'hui, il en reste une centaine.
Il y en a toujours
ont aujourd'hui entre 60 et 70 ans, les Enyo.
Elle continue à plonger. Toujours. Ah ouais, elle a 60 ans, elle y va, d'accord, ok.
Ouais, elle continue à plonger. Il y a un petit restaurant à Jeju où tu peux aller les voir. Et elle pêche, du coup,
elle chasse au harpon.
Et elle chasse au harpon, exactement.
D'accord.
Elle chasse au harpon. Et alors, elle te raconte qu'avec le réchauffement climatique, il y a moins de poissons qu'avant, les coraux ont été plus abîmés. Comme il y a différents types de métiers, effectivement, et donc c'était quelque chose qui se transmettait de mère en fille. Mm-hmm. Et aujourd'hui, les filles, elles n'ont plus vraiment envie d'être Enyo. Mais elles sont au patrimoine mondial de l'UNESCO, au patrimoine vivant de l'UNESCO.
Ah, waouh! Ah ouais, donc pour résumer la Corée, tu recommandes ou pas?
Ah ouais, vraiment. Je pense que quand on pense Corée, on doit penser immeuble. Enfin, je sais pas.
Immeuble. Moi, je suis peut-être pas, j'ai peut-être pas le bon stéréotype en tête, mais c'est vraiment ce côté méga connecté, immeuble, que des gens qui vont très très vite, ultra technologie, et ça travaille, ça fait que un peu similaire au Japon, mais encore presque plus énervé, quoi.
Alors, en fait, c'est presque plus à la cool qu'au Japon, parce que je te dis, c'est des dindes de café, t'en as partout, ils adorent manger, ils sont plus posés, il y a plus d'étudiants, je dirais pas qu'ils sont plus joyeux, il y a aussi beaucoup de suicides d'étudiants, parce que jusqu'au moment où ils sont entrés à l'université, c'est une galère sans fin pour arriver jusqu'à l'université, mais quand ils sont entrés à l'université, tout va bien,
et donc tu sens
une joie de vivre, c'est vraiment un pays à visiter. Et juste pour faire un parallèle avec le Japon, le Japon, pareil, on voit souvent Tokyo, Kyoto, on va toujours au même endroit en fait, Tokyo, Kyoto, Osaka, Nagoya, etc. Nous, on est allé aussi dans les Alpes japonaises, et les Alpes japonaises, donc Kanazawa, Takayama, c'est des endroits où tu vis dans des maisons de samouraï, où pareil, la nature est encore très préservée, où tu as des maisons avec les toits en chaume, avec l'herbe qui pousse sur les toits. C'est chouette à voir, c'est tellement chouette. Et tu peux y aller sans guide, en louant une voiture, juste.
Alors, pour ceux qui veulent louer une voiture au Japon, il faut se faire traduire son permis en japonais, c'est une petite formalité à faire, mais c'est important. J'avais dû le faire, moi, quand j'ai visité la région de Mie, qui est au sud de Osaka, et pour justement voir le Japon profond, des ninjas et des samouraïs, et ça, c'était vraiment incroyable. Merci beaucoup Valérie. J'aime bien terminer ce podcast par deux petites questions. La première, c'est si je te file les clés d'Adolorean pour remonter dans le passé et revivre un moment de ce dernier tour du monde, de ce dernier voyage en swap de maison, ce serait quel moment que tu voudrais revivre?
Je pense que c'est l'arrivée sur Uluru, donc en Australie.
Uluru,
qu'on appelait
le fameux
avant,
grand rocher dans un truc plat. Le fameux quoi?
Ouais,
c'est ça.
Tu sais, avant, c'est ce qu'on avait, ça s'appelait, on disait Ayers Rock. Pour ceux qui ont mon âge, on disait Ayers Rock. En fait, c'est Uluru, ouais. Le nom aborigène. Parce que c'est ça, et les Moai, parce qu'en fait, c'est des choses que tu as vues des milliards de fois en photo, en vidéo, en film. Sauf que Uluru, quand tu arrives dessus, on est arrivé au coucher du soleil. Le rocher, il est extraordinairement grand. Il change de couleur en fonction du soleil. Et je ne m'attendais pas, en fait, à ce choc. Je m'étais dit, bon, voilà, le rocher, ça va être beau. Mais je ne m'attendais pas à autant d'émotions d'être devant et avoir toutes ces couleurs. Et surtout, en étant au pied d'Uluru, d'avoir comme l'impression de sentir, de ressentir les gens qui vivaient, de sentir toute cette énergie qu'il y a au pied de ce rocher. Bref, j'ai pleuré à Uluru, c'était trop beau.
Ah, waouh! Ah, waouh! Non, mais ça, très bien.
Mais j'ai pleuré souvent. J'ai pleuré
mais c'est bien, mais il y a un moment, il faut. C'est bien, avec l'âge, on apprend à bien au moins assumer ses émotions et à les vivre pleinement. Donc, ça, c'est fantastique. Dernière question, si tu devais résumer ce voyage-là en une citation, une phrase connue de ta création ou une punchline, ça serait laquelle?
Alors, je ne sais pas si c'est ce voyage ou un petit peu une philosophie, mais il y a une petite BD, il y a un petit Snoopy que j'aime bien, où tu as Snoopy et Charlie Brown qui sont assis sur un ponton et ils regardent la mer. Et Charlie Brown dit à Snoopy, on n'a qu'une vie. Tu sais, c'est ce qu'on dit souvent, non mais il faut en profiter, on n'a qu'une vie. Et Charlie Brown et Snoopy répond, faux, on n'a qu'une mort, mais on vit tous les jours. Et je pense qu'en fait, c'est vraiment ça. On vit tous les jours, pour moi, ça résume le... Apprécions tous les jours ce qu'on vit, mais préparons la suite aussi. C'est être à la fois capable de vivre dans le présent, mais d'être sans arrêt capable de se projeter et d'organiser la suite.
Écoute Valérie, c'est magnifiquement dit. Et justement, c'est ce qui t'a poussé aussi à écrire ce livre, En avant pour un tour du monde. C'est que tu voulais aider les gens à se projeter aussi dans l'avenir, à préparer leur tour du monde, c'était pour ça?
Mon envie, c'était vraiment de dire c'est possible. C'est possible. On a les freins, les seuls freins qu'on a, c'est des freins qui sont en nous. Donc, j'ai commencé par lister les freins, tout ce qui pouvait nous bloquer.
Ah, yes.
Puis on essaye de trouver comment les débloquer. Et puis ensuite, c'est des conseils pratiques sur comment effectivement organiser un échange, quel type de véhicule, comment on prépare un itinéraire, comment on associe les enfants, comment gérer l'école à distance, parce que tout le monde te dit « mais c'est une vraie tannée ». Mais non, c'est pas vrai.
Et ça va être de plus en plus un vrai besoin et une vraie envie, en fait, parce que c'est de plus en plus accepté aussi par l'éducation nationale, la société, tout ce qu'on veut, le télétravail et l'éducation à distance. Donc, super. Non, je t'ai coupé, mais je pense que c'est ultra important, en fait.
Exactement. Et donc, c'est vraiment le hasard. C'est une personne avec qui j'avais fait des ateliers d'écriture avant et qui était dans une maison d'édition et qui m'a suivi tout le long du voyage et qui, en plein milieu du voyage, m'a dit... j'écrivais un peu...
Eval,
pourquoi t'écrives un peu, là?
Faut gratter un bouquin, là. Faut transmettre tout ce savoir.
Voilà, et écoute, c'est à la fois un recueil de conseils et c'est plein de témoignages aussi d'anciens tour du mondistes ou d'autres familles pour avoir d'autres points de vue.
Ça, c'est important. Évidemment, donc le livre « En avant pour un tour du monde », le lien est dans la description. Va jeter un œil si, et surtout va l'acheter si tu projettes de toi aussi partir, soit en famille ou soit en solo, ou soit bref, c'est arriver à comprendre que ça peut se préparer, il faut de la préparation, mais ça, c'est pas si compliqué, surtout quand on a les bonnes guidelines et que tout est résumé dans un livre. Valérie, merci beaucoup pour ton temps, ta générosité, les belles ondes, les belles leçons. Tu nous parlais d'un futur voyage. C'est quoi qui est en tête là? C'est quoi qui est dans le pari?
Bah, Nemo passe son bac l'année prochaine. Nous, on va pas s'arrêter là une fois qu'il aura passé.
C'est bon. Ciao, Nemo. Alors nous, c'est bon. Maintenant, on est relax. Tu t'amuses bien. Allez.
Donc, on a fait notre plan sur les 5 prochaines années.
Magique. Et
on voudrait retourner à Atacama, mais on aimerait aussi partir sur la Transcanadienne. Et enfin, bref, il y a plein de choses qui sont listées. Voilà.
Tu donnes envie. Merci beaucoup Valérie. Internaute, avant de nous quitter, ça fait toujours plaisir. Les petits feedbacks sur le podcast, une petite dédicace en story sur Facebook. Bref, juste savoir que ça t'a fait plaisir, ça t'a été utile ou ça t'a inspiré. Nous, ça nous motive à continuer. Valérie, merci encore. Je t'envoie plein de belles ondes.
Merci à toi, c'était un plaisir.
Je vous dis à tous à très vite. Ciao.
Ciao.